Mais d'abord, cette histoire de Tristan Péloquin ce matin. Écoutez, il y a 18 ans, le kid, il a été arrêté. Il s'appelle Sami Bensachi. Il faisait partie d'un réseau qui prenait le contrôle des cellulaires pour voler des millions de dollars de crypto-monnaie, de Bitcoin. On s'en va rejoindre Stéphane Hamel, qui est spécialiste en informatique et en cybermétrie. Bonjour Stéphane.
Bonjour Bernard, bon retour des fêtes, hein? Ça commence bien.
Merci. Oui, bien ça commence bien, mais en même temps, je vais vous dire, je suis un petit peu inquiet de voir que ça existe, ça, les SIM swap. Alors, on a tous des cartes SIM si on a un cellulaire, mais le SIM swap qui était utilisé par ces pirates, comment ça fonctionne?
Bien, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un mécanisme qui est quand même assez sécuritaire, mais la faille là-dedans, c'est au départ l'information personnelle qu'ils ont réussi à obtenir pour pouvoir se faire passer pour un magasin, par exemple, là, comme on voit dans les centres commerciaux, là,
oh oui.
Pour pouvoir se faire passer comme un employé, puis dire tout simplement, ah ben moi je travaille pour tel et tel fournisseur et mon client a changé de numéro de téléphone, donc on change l'identifiant de cette carte-là. Et de là, justement, ils vont pouvoir prendre le contrôle du téléphone. Et évidemment, sur notre téléphone, on a nos courriels, on a plein d'informations personnelles. On a même des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs d'authentification à deux niveaux, qui passent justement par les cellulaires. Fait que c'est supposé être un mécanisme qui est plus sécuritaire, mais qui, dans ce cas-là, devient, disons, un vecteur supplémentaire, là, une faille supplémentaire pour prendre le contrôle d'à peu près n'importe quoi via notre téléphone une fois qu'il a été piraté de cette façon-là.
OK, essayons de vulgariser ça un peu. Alors, dans le fond, ce qui fait, lui, le pirate, c'est qu'il dit, mettons, j'ai Bernard à côté de moi, là, il veut changer de... Quoi, il y a un problème avec sa carte SIM ou il veut changer de carte SIM, puis là, il appelle, mettons, la personne chez Bell ou chez Rogers ou chez Vidéotron, et là, il dit, je l'ai à côté de moi, le client, là, puis il y a un problème avec sa carte SIM, c'est ça qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit?
Ben c'est ça. Dans le fond, la façon la plus simple, là, c'est que le pirate se procure des cartes SIM qui sont très faciles à se procurer. Il va se faire passer pour un employé. Donc, effectivement, il va dire, Monsieur Drainville, il était chez Bell avant. Maintenant, moi, je travaille chez Rogers. Maintenant, ce client-là transfère son numéro de téléphone de Bell à Rogers. Donc, de cette façon-là, le numéro de la carte SIM, cet identifiant-là va changer, mais c'est ce qui devient un peu la clé pour accéder à tout le reste qui est sur le téléphone.
Donc, il demande quoi? Excuse-moi, je veux juste bien comprendre comment ça fonctionne, parce qu'après ça, je pense qu'une fois qu'on comprend, c'est plus facile de déjouer les pirates. Donc, il veut obtenir, mettons, de la personne qui travaille chez Bell, il veut avoir quoi? Là? Qu'est-ce qu'il demande quand il appelle en mon nom?
Ben c'est ça. Fait que quand on se présente dans une boutique, habituellement, là, la personne qui est là va valider qui on est. Donc, va demander notre nom, notre adresse, souvent notre date de naissance, le nom de jeune fille de notre mère. C'est tout des renseignements comme ça qui, justement, ont été, beaucoup de ces informations-là ont été divulguées suite à la fuite de Desjardins, par exemple. Ouais, mais ça pourrait être d'autres sources. Okay. Donc, avec ces renseignements personnels-là, dans le fond, quelqu'un va se faire passer pour un employé et dire « Oui, moi, j'ai M. Drainville ici, voici sa date de naissance, j'ai vérifié son identité, voici tous ces renseignements. » Et la personne, par exemple, si on veut passer de Bell à Rogers, la personne chez Rogers va dire « Oui, OK, c'est beau, parfait, je transfère la propriété de ce numéro de téléphone-là qui était avant chez Bell, je la transfère chez Rogers. »
Ah, voilà.
Sauf qu'en même temps, ça change le numéro de la carte SIM. Fait qu'il y a deux éléments là-dedans. Le premier, c'est les informations personnelles que ça prend pour pouvoir faire ça. Mais le deuxième, et c'est là que dans l'article, on mentionne Rogers et Fido, cette compagnie-là, ou comme les autres, doivent revoir leur mécanisme de validation parce que c'est beaucoup trop facile justement de faire un transfert. La loi permet maintenant de garder son propre numéro de téléphone quand on change de fournisseur, ce qui n'était pas le cas avant, mais c'est ce qui fait en sorte que quelqu'un peut s'approprier notre numéro de téléphone et par le même coup s'approprier l'accès à notre cellulaire.
Fait que c'est ça qui se passe. Dans les faits, c'est comme si je perdais le contrôle de mon numéro de téléphone. C'est comme si mon numéro de téléphone devenait la propriété volée du pirate.
Et de là, évidemment, ils ont accès à tous les courriels, tous les SMS et tout ça.
OK. Et c'est comme ça, en ayant accès aux courriels, aux SMS, qui ont été capables, dans le cas de cette enquête-ci, d'aller chercher de l'information dans les cellulaires de ces propriétaires de crypto-monnaies, de bitcoins. Et là, on peut penser qu'ils ont procédé à des transferts, ils ont procédé à des ventes de bitcoins, des ventes de crypto-monnaies pour les transférer dans leur compte à eux. Et de cette manière-là, ils sont devenus, dans certains cas, millionnaires.
Et oui, tout simplement, c'est ça. Et là, c'est sûr que ça attire l'attention parce que c'est de la crypto-monnaie, mais il ne faut pas oublier que, dans le fond, notre cellulaire contient tellement de renseignements personnels. J'ai une application bancaire sur mon téléphone, je suis capable de m'identifier facilement. Dans certains cas, ils vont m'envoyer justement un SMS pour dire « Hey, est-ce que tu es vraiment la personne que tu prétends être? » Mais si quelqu'un a pris le contrôle de mon téléphone, ils vont tout simplement, oui, ils vont avoir accès.
Ben oui, voilà. C'est comment vous appelez ça tout à l'heure, le contrôle à deux facteurs? Là, c'est quand on reçoit effectivement un numéro de sécurité à 6 chiffres sur notre cellulaire, puis on le tape. Mais si la personne, effectivement, a pris le contrôle de notre cellulaire, à ce moment-là, c'est un contrôle qui est totalement inefficace, là.
C'est ça. On a amélioré la sécurité en ayant un contrôle à deux niveaux, une vérification à deux niveaux comme ça. Oui, c'est bon de l'avoir, mais ça reste que c'est pas infaillible. Puis au final, tout ça, là, c'est de la technologie, c'est du logiciel qui fait rouler notre téléphone et tout ça. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui est du code et qui est connecté à Internet, c'est sûr que ça peut être piraté. Puis je dirais même que on peut assumer qu'à peu près tout va être piraté, que ce soit notre auto, nos appareils à la maison ou des choses comme ça, c'est tout le même principe.
Bon, on s'entend que le SIM swap, là, ça s'appelle comme ça, il a été précédé d'un vol de données par l'entremise de mes courriels ou de mes réseaux sociaux, là, pour qu'ils soient capables de dire au fournisseur, oui, j'ai son nom, tu veux savoir le nom de sa mère? Oui, j'ai le nom de sa mère, la date de naissance. Il peut même faire semblant de me parler à côté de moi. C'est quoi votre nom? Ouais, OK, date de naissance, c'est ça, etc., etc. Donc, ça se fait en deux étapes, là.
Oui. Absolument, c'est ça. Le point de départ, c'est la fuite de renseignements personnels.
Voilà.
Parce que sans ça, on n'est pas capable de passer à la deuxième étape.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça, Stéphane Hamel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça?
Il y a des petites actions qu'on peut faire. Ça me fait peur aussi d'entendre comment les gens disent « Ah, j'ai rien à cacher », tout ça. Donc, oui, peut-être que ça vaut mieux en cacher un peu plus. Donc, ne pas divulguer notre date de naissance, faire attention aux renseignements qu'on va donner sur les médias sociaux ou même dans notre profil sur les médias sociaux parce que, justement, le pirate va pouvoir, une fois qu'il a accès au téléphone, peut avoir accès à nos profils de médias sociaux. Donc, tous ces éléments-là, toutes ces petites données-là qu'on essaime comme le petit pousset là, qui va laisser ça un peu partout, ça finit par s'accumuler, ça finit par donner trop de renseignements personnels. Et l'autre élément, c'est quand le service est offert pour deux facteurs d'authentification, c'est toujours préférable, c'est déjà mieux que rien. Les mots de passe, ça revient tout le temps à la base de tout, de faire attention à nos mots de passe. Fait qu'il y a trois éléments. Les données qu'on essaime un peu partout, les mots de passe et l'authentification en deux facteurs, quand c'est disponible, c'est déjà mieux que pas de l'avoir.
Bon. OK. Par ailleurs, on s'était parlé, avant Noël, on s'était parlé d'Equifax. Hein, on se rappelle, on avait découvert avec horreur que, dans le fond, Equifax, qui récolte des données personnelles, vendait nos données personnelles. Bon. Et qui avait une espèce de logiciel pisteur là, qui permettait la récolte de ces données personnelles pour nous, les clients d'Equifax, les clients forcés là, à cause du vol de données chez Desjardins. Là, on a appris ces derniers jours que Equifax a réagi. Est-ce que vous pouvez nous résumer le changement qu'ils ont apporté et en quoi ça va mieux nous protéger dorénavant?
Mm-hmm. Bien, comme n'importe quelle entreprise, si on demande aux gens des médias, des relations publiques, est-ce que la sécurité est importante? Est-ce que la vie privée est importante? Évidemment, ils vont répondre que oui, on a des procédures en place, c'est très important, tout ça. Il n'y a pas de surprise là. Ce qui est intéressant, c'est que Equifax, évidemment, ont répondu ça, mais ont aussi été un peu réticents, disons, ou peut-être même arrogants un peu dans leur approche. Donc, finalement, après révision de leurs procédures, des choses comme ça, ben, ce qu'ils admettent, c'est que oui, il y a des logiciels pisteurs qui ont peut-être pas leur raison d'être là et ils sont en train de les enlever. Fait que d'un coup, ce qui me chicote là-dedans, c'est que d'un coup, ils disent oui, la sécurité est importante, on a des procédures en place, mais dans la même phrase, ils vont dire qu'ils admettent qu'il y a des pisteurs qui étaient là depuis plusieurs années et qui n'étaient pas utilisés. Fait que pour moi, il y a une espèce de dichotomie là-dedans. Là. Tu peux pas prétendre être sécure en laissant du code qui est là, qui ne sert pas dans un site sécurisé.
Donc, on a appris qu'ils avaient décidé de retirer ce logiciel pisteur là, qui récolte des informations qui sont supposément anonymes. Mais on a appris, évidemment, que ces informations-là étaient envoyées à des géants du web comme Facebook ou Google,
exact,
qui, eux, les monnaient, évidemment, les revendent à des annonceurs. Donc, en principe, ce geste posé par Equifax va sécuriser un petit peu plus nos données. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est un pas dans la bonne direction. Stéphane Hamel, spécialiste en informatique et en cybermétrie. Merci.
Merci beaucoup.
Dans un instant, on va parler avec le propriétaire du restaurant Joe Beef. Et on aura une des militantes véganes en studio qui va venir nous expliquer pourquoi ils ont décidé de poser ce geste en fin de semaine.